Voici, chers amis de l'histoire, une nouvelle aventure de la Société d'histoire Saint-Paul-et-Mort. La Société vous offre maintenant la possibilité de connaître des tranches d'histoire de nos quartiers, et le tout sous forme de balado que vous pourrez écouter à votre rythme sur notre page Facebook Société d'histoire Saint-Paul-et-Mort. Découvrez ici votre balado. Dans ce balado, nous parlons de la Canadian Tube and Steel Company. C'est au début du 20e siècle, la Canadian Tube and Steel Company, établie à Villemort, contribue à l'essor industriel et résidentiel du quartier. Et en 1910, la Canadian Tube and Iron Company est officiellement constituée en société. L'année suivante, le magazine The Monetary Times indique qu'une nouvelle usine est en construction à Villemort et devrait ouvrir ses portes au printemps, au coin de la rue Saint-Patrick et Hamilton. On y produira entre autres des tiges, des poutres, des tubes et des boulons. En août, la même année, l'imposante manufacture qui couvre deux blocs à l'extrême ouest du quartier Saint-Paul est mentionnée dans un article de Canadian Courier qui vante l'essor industriel du Québec. La manufacture profite de l'énergie hydraulique fournie par le canal de la Chine. Chaque année, près de 14 milliards de litres d'eau sont utilisés. La compagnie est à ses débuts présidée par John Wilson McConnell, bien connu dans les cercles commerciaux et industriels. Né en Ontario en 1877, il déménage en 1902 à Montréal. En plus de son poste à la Canadian Tube and Iron, il est notamment vice-président de la Montreal Tramway Company, de l'Imperial Trust Company, de la St. Lawrence Sugar, de la Canadian Rolling Mills Company, de la Goodwins Limited et de bien d'autres. En 1914, McConnell décide de fusionner le Canadian Tube and Iron avec la Colonial Wire Manufacturing et la Canadian Rolling Mills. La nouvelle entité est renommée le Canadian Tube and Steel Company. Villemort commence à se développer au tout début du 20e siècle. À l'époque, de grandes compagnies choisissent de s'établir le long du canal de la Chine à la hauteur de Côte-Saint-Paul et de Villemort, nous disent les mémoires des Montréalais dans la banque BANQ, donc c'est la Bibliothèque nationale. C'est assez important que tout le monde puisse savoir qu'est-ce que c'est qui s'est passé et où ça s'en va. Donc, l'arrivée de la Canadian Tube and Steel va attirer de nombreux travailleurs dans le quartier, notamment des immigrants italiens, qui s'installent en périphérie de Montréal. Dans une étude publiée en 1934, Harold A. Gibbard fournit une description de ce processus. Selon lui, le secteur a été construit autour de trois usines majeures, soit la Canadian Car and Foundry en 1905, la Montreal Spinning Wool Company en 1908 et la Canadian Tube and Steel. Ces entreprises auraient agi comme un aimant, favorisant le développement résidentiel et urbain du quartier. Ainsi, dès 1915, toutes les rues de Villemort auraient été officiellement ouvertes et graduellement peuplées par une majorité de Canadiens français et aussi par des Italiens et des Polonais. Gibbard estime que la Canadian Car and Foundry et la Canadian Tube and Steel ont donné du travail à environ la moitié des Italiens ayant résidé à Villemort avant 1930. En 1942, l'usine de Villemort est achetée par la Dominion Steel and Coal Corporation, qu'on a communément appelée la DOSCO, la fusionnant du même coup avec de nombreuses aciéries québécoises et canadiennes. En 2017, c'est une entreprise similaire, Nova Tube, de la Nova American Steel, qui occupe les lieux de l'ancienne Canadian Tube and Steel. Donc, il y avait aussi avec une contribution de la Société d'histoire Saint-Paul-et-Mort et aussi du Centre d'histoire de Montréal avec M. Olivier Paré, qui a donné pas mal d'informations à travers tout ça pour vous. Ensuite, on va parler des grèves des années 1940. Dès les années 1920, certains journaux montréalais mentionnent les dangers associés au travail dans l'usine de Villemort. Outre les quelques blessures au travail rapportées, on signale des accidents majeurs à la Canadian Tube and Steel ayant coûté la vie à plusieurs ouvriers. En 1938, Leo Clark, 31 ans, mort brûlé dans une explosion à la fonderie de la manufacture Arnold Winterbottom, 39 ans, meurt lui aussi dans une explosion survenue à l'usine en septembre 1942. Deux ans plus tard, cinq personnes y perdent la vie dans une troisième explosion. Trois incidents fatals en moins de 10 ans. Ces accidents surviennent en pleine Seconde Guerre mondiale, alors que l'usine de Villemort est réquisitionnée pour l'effort de guerre canadien. Les conditions de travail sont rudes. Dès 1941, 650 ouvriers se mettent en grève et sont rapidement réprimandés pour leur démarche par le gouvernement canadien, désireux de garder ses usines de munitions ouvertes et fonctionnelles. Après la guerre, une autre grève est déclenchée en 1946. Environ 800 travailleurs réclament de meilleurs salaires et moins d'heures de travail par jour. Cette nouvelle grève arrive en parallèle avec les grèves de l'acier de 1946 qui ont cours dans plusieurs autres aciéries canadiennes, notamment à Hamilton en Ontario. La grève dura 3 semaines avant que les différentes parties arrivent à un accord en août de la même année. Une troisième grève de 6 semaines, impliquant cette fois 1200 ouvriers, est déclenchée à la Canadian Tube and Steel en 1950. On signe finalement une entente accordant à tous les ouvriers un salaire minimum de 1,05 $ de l'heure et une semaine de travail de 44 heures. Voilà pour votre information.